Nous remercions le Seigneur pour sa grâce envers nous, qui nous permet de nous arrêter un moment pour tourner les regards d'une façon particulière ensemble, comme le peuple de Dieu, trouver aussi la consolation pour les cœurs troublés, trouver l'encouragement aussi pour ceux qui faiblissent. Nous le remercions grandement pour les cantiques, pour la communion fraternelle, pour les chants, pour les prières aussi, et surtout pour son esprit, sa présence ici. Nous avons déjà ouvert la Bible ce matin dans la première épître de Jean, et nous allons ouvrir maintenant notre Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Évangile de Jean, chapitre 14, et nous voulons voir ce matin le don de la paix. Avant de lire le passage, j'aimerais vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que cela, c'était en décembre dernier, l'événement qui a retenu toute l'attention du monde dit christianisé, c'était Noël, la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Mais le Jésus du croyant authentique n'est pas le Jésus du commun des mortels. Le Jésus à qui l'on pense en décembre et puis qu'on oublie le reste de l'année. Pour le croyant, Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par sa venue sur terre et ensuite dans le cœur de celui qui croit, Jésus transforme radicalement la vie. Pour celui qui croit, Jésus n'est pas seulement l'extase d'un moment, l'extase de la période de Noël, il est l'extase de toute une vie. La proclamation des anges au berger lors de la naissance de Jésus, Jésus le Sauveur, le Christ, le Seigneur, nous permet de comprendre combien notre Seigneur Jésus transforme la vie de tous les jours. Je vous lis Luc chapitre 2, versets 13 à 14. Quand les anges ont apparu au berger. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » La venue de Christ apporte la paix aux croyants. Et nous avons bien besoin, tous les jours. C'est la paix aux croyants. C'est le cas de Christ qui affronte dans le calme toutes sortes d'oppositions. Toute sa vie a été soumise à l'opposition, et c'est la paix du Seigneur qui l'a tenue. C'est le cas de Paul et Silas qui sont roués de coups, jetés dans les prisons, et qu'est-ce qu'on voit dans Actes 16, chapitre 25 ? Ils priaient, ils louaient Dieu dans la prison de Philippe. Et de grandes choses se sont passées, puisque les murs se sont effondrés, des âmes se sont données au Seigneur. C'est le cas de Paul, et si nous lisons la vie de Paul dans les actes, dans les épîtres, on voit que c'est un homme qui a été tout le temps dans les épreuves, dans les prisons, dans les tribulations, dans les coups, dans les jeûnes. Et pourtant, c'était un homme qui avait la paix de Dieu. Il disait dans Colossiens chapitre 1, verset 24, « Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous » et dans Philippiens chapitre 3, « Et je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » Où peut-on trouver une telle paix? Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui n'est pas perturbée par les difficultés, le danger ou les soucis. Eh bien, cette paix se trouve dans la promesse du Seigneur que nous allons voir dans Jean chapitre 14. Et nous lisons maintenant Jean chapitre 14 à partir du verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » et mon père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà, la nuit avant son agonie, le Seigneur prend le temps de réconforter ses disciples. Et ce verset 27 nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix dont Jésus parle permet aux croyants d'affronter dans le calme les circonstances les plus tumultueuses de la vie. Les circonstances n'affectent pas la paix que Dieu nous donne. C'est elle qui affecte les circonstances et triomphe de toute adversité. La paix de Dieu prospère au milieu de multiples difficultés. Eh bien, nous voulons d'abord voir la nature de la paix que Dieu nous offre. Le Nouveau Testament parle de deux sortes de paix. La paix objective qui est en rapport avec notre relation avec Dieu et la paix subjective que nous expérimentons dans les différentes situations de la vie. Regardons d'abord le premier type de paix, la paix objective qui est en rapport avec notre relation avec Dieu. La paix objective que nous avons avec Dieu, nous l'avons par grâce. La personne non régénérée, la personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, n'a pas la paix avec Dieu. Dès notre naissance, nous sommes des ennemis de Dieu, des enfants de colère. Adam et Ève ont péché et nous ont transmis notre nature pécheresse. Car tous ont péché, nous dit Romains, et sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2 nous dit aussi, quelque sorte, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. En Adam, nous sommes des enfants de colère, nous n'avons pas la paix de Dieu. Par contre, dès l'instant où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous cessons d'être des ennemis de Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Par son sang versé sur la croix, Christ a ratifié le traité de paix avec Dieu. Cette paix est objective dans le sens où elle n'a rien à voir avec l'expérience. Elle n'a rien à voir avec ce que nous ressentons ou pensons. C'est un fait accompli, c'est un don gratuit de Dieu. On peut lire Romains chapitre 5, à partir du verset 1. On tourne les pages de notre Bible, dans l'Épître aux Romains. Romains chapitre 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez, nous avons la paix avec Dieu. Dieu nous donne cette paix. Celui qui a placé sa confiance dans l'œuvre de Christ est racheté, est totalement pardonné, est déclaré juste par la foi. Il n'est plus un ennemi de Dieu comme il était avant en Adam, mais il est maintenant un enfant de Dieu. Paul écrit aux Colossiens, Colossiens chapitre 1, et on va tourner les pages, hein, Colossiens chapitre 1, versets 19 à 22, pour voir comment le Nouveau Testament nous parle de cette paix que nous avons dans le Seigneur. Colossiens chapitre 1, versets 19 à 22. Car Dieu, a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Voyez, autrefois nous étions ennemis de toutes les façons, par nos actes et par nos pensées, et maintenant nous sommes réconciliés. Et donc cette paix, nous l'avons en Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans le même chapitre, au verset 12, Paul dit aux Colossiens, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Dieu et l'homme, autrefois en Adam, étaient séparés, mais en Jésus-Christ, ils sont réconciliés. Et je vous lis 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 et 19. « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Par la justification, par la foi, nous avons la paix avec Dieu. En Christ, Dieu nous a ouvert la voie de la paix objective avec Dieu, une paix qui n'a rien à voir avec ce que nous ressentons. C'est un fait accompli. Alors, à côté de cette paix objective, il y a un deuxième type de paix, une deuxième sorte de paix dont la Bible parle. C'est la paix subjective que l'on expérimente dans les différentes circonstances de la vie. C'est une paix qui affronte les événements de la vie et les désarme. C'est une paix surnaturelle, une paix divine qui garde notre cœur en paix malgré les circonstances extérieures. C'est la paix de Philippiens, chapitre 4, verset 7. Et prenez avec moi, c'est tout à côté de Colossiens, donc on n'est pas très loin. Philippiens, chapitre 4, nous pouvons commencer au verset 5. Et regardez ce que Paul écrit aux Philippiens. Je vous rappelle que quand Paul écrit cette épître, il est en prison. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé, il peut être condamné. Il y a des problèmes à l'église de Philippe, il y a des gens qui ne s'entendent pas bien. Évodie et Saint-Tich, il y a des chrétiens qui sont malades. Il connaît l'opposition même de la part des chrétiens. Mais voilà ce que Paul écrit au chapitre 4, verset 4, c'est l'épître de la joie. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. » Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà, la paix de Dieu, ce n'est pas la paix de l'homme, c'est la paix de Dieu. Elle est tellement puissante qu'elle gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu est à son poste, elle monte la garde contre toute agression ennemie, contre tout stress. Elle empêche les soucis d'accabler nos cœurs. Il nous a dit ensuite que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Elle est tellement profonde, tellement efficace, qu'elle surpasse toute compréhension humaine. On ne peut pas vraiment expliquer comment ça fonctionne. Même les croyants qui l'ont expérimenté ne peuvent pas complètement la comprendre. Cette paix est profonde, c'est le don de Christ à son peuple. C'est vraiment ce genre de paix dont nous avons besoin, n'est-ce pas? C'est une paix qui s'attaque au passé. Notre conscience est totalement purifiée. L'effet nocif de nos péchés passés est éliminé. Nous l'avons chanté dans les cantiques ce matin. Nous l'avons chanté dans ce dernier cantique. Nous l'avons chanté dans plein de cantiques. Voilà. Nous avons un avocat auprès du Père. Si nous avons péché, nous pouvons aller à lui. C'est une paix donc qui s'attaque au passé. C'est une paix qui gère le présent. Nous connaissons le contentement. Elle veille à ce qu'aucun désir non satisfait ne nous ronge le cœur. C'est une paix pleine de promesses pour l'avenir. Elle empêche que les inconnus du lendemain nous déstabilise. C'est cette paix que Jésus laisse à ses disciples quand il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». C'est un don riche et abondant qui découle de sa grâce. Voilà ce qu'on peut dire sur la nature de la paix, une paix objective que nous avons en Jésus-Christ. C'est un fait accompli, une paix subjective que nous expérimentons dans les moments difficiles de la vie. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. J'aimerais parler maintenant de la source de la paix subjective, la paix expérimentale que nous avons désespérément besoin. La paix de Dieu repose sur la paix objective. Les deux sont liés. La paix de Dieu repose sur la paix que nous avons avec Dieu. La paix subjective que l'on peut expérimenter au sein de l'adversité n'est accessible qu'à ceux qui ont reçu la paix de Dieu. Elle n'est accessible qu'à ceux qui sont enfants de Dieu. Parce que c'est en lui que nous avons tout pleinement. Dieu peut accorder la paix car il est appelé le Dieu de paix. Romains chapitre 15, verset 38, Romains chapitre 16, verset 20, il est le Dieu de Philippiens chapitre 4, verset 9, et il est le Dieu de paix. Et si nous sommes ses enfants, alors nous pouvons connaître la paix. Et finalement, quand on lit le Nouveau Testament, on voit que Dieu nous accorde la paix uniquement par Jésus-Christ. Nous avons lu dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». C'est la paix de Dieu qui nous est offerte. Nous ne pouvons pas la trouver ailleurs. Cette paix dépasse toute intelligence parce que c'est justement la paix de Dieu. C'est la paix personnelle de Jésus-Christ. C'est la paix profonde et riche qui calmait le Seigneur en présence des moqueurs, en présence de ceux qui le haïssaient et devant tous les obstacles qu'il a rencontrés dans sa vie terrestre, même devant le diable. La paix de Dieu. Devant l'opposition et la persécution, Jésus restait calme et inébranlable. Il a démontré que sa paix surpassait toute intelligence humaine. Et devant Pilate, Pilate était tellement troublé par cette paix qu'il a été décontenancé. Et il lui a dit, il a dit à Jésus, mais tu ne rends pas compte à qui tu parles? Moi, je suis Pilate. Et Jésus lui a dit, tu n'aurais pas de pouvoir sur moi si cela ne t'avait pas été donné d'en haut. Voilà, la paix du Seigneur Jésus décontenançait tous ses ennemis. Et on voit dans le Nouveau Testament que Jésus est le seul vrai dispensateur de paix. On lit dans Actes chapitre 10, verset 36, Pierre dit que Dieu a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Actes chapitre 10, verset 36. Et 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 16, Paul dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Voilà une consolation pour nous. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps. Matin, midi, soir, non, de toute manière. Eh bien, nous pouvons remercier le Seigneur pour cette paix personnelle, cette paix merveilleuse qu'il nous donne. Elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves avec le Seigneur Jésus. Elle a fait ses preuves avec les disciples. Elle a servi au cours de toute sa vie terrestre. Et il a donné cette paix lorsqu'il est parti. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. C'est cette paix-là qu'il a donnée à ses disciples. Elle devait leur procurer la sérénité dans le danger, le calme dans l'agitation, la libération dans l'anxiété. C'est la même paix qu'il a à notre disposition. Elle doit avoir le même effet dans nos vies. Alors, qui nous transmet le don de la paix? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Dieu a prévu à tout, mes frères et sœurs. Galates, chapitre 5, verset 22, nous dit que la paix est un fruit de l'Esprit. On ne peut pas la produire nous-mêmes. C'est un fruit de l'Esprit. Jean, chapitre 16, verset 14, dit du Saint-Esprit, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit prend ce qui est à Christ et nous le donne. C'est son ministère. C'est le processus de sanctification. Le Saint-Esprit nous rend semblables à Christ. D'ailleurs, toutes les promesses que Jésus laisse à ses disciples troublés la veille de sa mort s'enracinent dans la venue de cet esprit. La vie, nous avons lu ce matin, l'union avec Dieu, la connaissance et la paix, c'est le cet esprit qui prend toutes ces choses qui sont à Christ et qui nous les donne. Si nous sommes en Christ, nous avons tout pleinement en lui et nous avons aussi la paix. Sans Jésus-Christ, aucune personne ne peut goûter la paix parfaite. Sans Dieu, le monde ne peut pas vivre en paix. Et vous voyez bien ce qui se passe. L'humanité ne connaît pas la paix. Les mariages se brisent et se déchirent. Il n'y a plus de communication. plus d'amour, plus de soucis pour autrui. Chacun s'occupe de ses petites affaires. Il n'y a pas de paix dans les cœurs, il n'y a pas de paix dans les familles, il n'y a pas de paix dans les écoles. Même sur le lieu de travail, il n'y a pas de paix. Et les nations ne sont pas en paix. Voilà. La Bible nous dit que les gens, les hommes sans Dieu, ne peuvent pas connaître la paix. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Et Ésaïe ajoute, Ésaïe 48, verset 22, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Donc, réconciliés avec Dieu, nous pouvons connaître la paix qui surpasse toute intelligence. Alors, relisons Jean, chapitre 14, verset 27. Il nous est dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus nous a fait une promesse. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et il nous indique ensuite la bonne attitude qui résulte de ce don de paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. S'il a dit ça, c'est parce qu'il savait ce que nos vies seraient. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Donc il nous fait une promesse. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne avec intérêt, mais Dieu nous donne gratuitement, gracieusement. Et la conséquence de ça, c'est que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Remarquez bien l'ordre des différentes déclarations du Seigneur. Il dit d'abord, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et ce n'est qu'ensuite qu'il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parce qu'il nous a donné sa paix, parce qu'il nous a laissé sa paix, nous pouvons alors connaître la paix dans toutes les situations. Notre cœur peut ne pas être troublé et il peut ne pas s'alarmer. Imaginez que quelqu'un vous laisse quelques millions d'euros sur votre compte. Est-ce que vous allez faire des petits jobs pour arrondir la fin du mois? Non, parce que sur votre compte, vous avez déjà beaucoup d'argent. Vous n'allez pas non plus faire beaucoup d'heures sup pour mettre un peu de beurre dans les épinards si votre compte est déjà bien garni parce que quelqu'un a déposé dessus des millions d'euros. Eh bien, le Seigneur lui dit comme ça, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans sa grâce, le Seigneur nous donne sa paix. C'est un don, une promesse, je vous donne ma paix. Le commandement qui suit nous rappelle notre responsabilité. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Si nous n'avons pas la paix du Seigneur, on aurait pu dire, ben, Seigneur, tu ne nous as rien laissé, tu ne nous as rien donné, notre cœur se trouble, parce que nous n'avons pas ta paix, tu ne nous as pas donné ça. Mais comme il nous l'a donné, nous pouvons avoir un cœur qui ne se trouble pas. Donc il nous faut accepter et appliquer dans notre vie la paix que Christ nous donne. La paix de Christ est là, elle est nôtre, mais nous devons la recevoir par la foi. Et Nombre 23, verset 19 nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Dieu est fidèle, ses promesses sont certaines. S'il dit qu'il nous donne sa paix, il nous donne sa paix. S'il dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, alors nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et non par les œuvres. Est-ce que nous croyons cela? Si donc nous nous emparons de la promesse de la véritable paix de Christ, nous connaîtrons, nous expérimenterons la paix du cœur, la sérénité, quelles que soient les circonstances. De la même manière, si notre cœur est troublé, c'est parce que nous ne croyons pas vraiment Dieu comme nous le devrions. Nous ne lui faisons pas entièrement confiance. Nous doutons un peu de ses promesses. Nous avons oublié que lui-même a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Alors, quels sont les voleurs de la paix? Eh bien, il y a les personnes. Il y a aussi les circonstances. Voilà. Mais il faut remarquer que l'anxiété et les tourments se focalisent rarement sur les circonstances présentes. Je veux dire par là que l'anxiété est généralement une crainte qui s'ancre dans le passé ou le futur. Certaines personnes vivent dans l'anxiété à cause de certains événements passés. On réfléchit au passé et on est dans la crainte. Quelles peuvent être les conséquences de ce que j'ai fait? Pourquoi on cherche dans le passé des choses? Et nous sommes angoissés à cause de ça. Mais d'autres personnes vivent dans l'angoisse à cause de ce qui pourrait se passer dans le futur. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Que va être ma vie? Voilà, on est en train de se projeter à la fois dans le passé, dans le futur. Mais avons-nous prise sur ça, frères et sœurs? Nous n'avons pas la prise sur ça. Qui gère le passé et le futur? Le Seigneur. Le Seigneur, le passé et le futur sont dans les mains du Seigneur. Dieu nous a pardonné nos transgressions passées. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Et il nous promet de subvenir à tous nos besoins futurs. Donc, Dieu nous a laissé déjà ses promesses aussi bien pour le passé, les transgressions qui pourraient nous troubler. Et nous avons vu ce matin, nous pouvons nous rendre auprès du Seigneur, notre avocat, lui confesser notre péché. Il est capable de nous purifier de toute iniquité. Et pour le futur, nous n'avons pas de prise sur le futur. Il nous a enseigné dans Matthieu, regardez un peu les oiseaux du ciel, regardez un peu le lys des champs. Voilà, Dieu prend soin d'eux. Et ce ne sont pas des hommes. À plus forte raison, nous qui sommes ses enfants. Dieu sait de quoi nous avons besoin avant même que nous demandions. Voilà, il nous demande de ne pas nous inquiéter du lendemain ou de la veille, parce qu'il nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 22 à 23. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Alors faisons donc confiance au Seigneur. Faisons donc confiance à Dieu pour nos besoins d'aujourd'hui. Il connaît ce que nous avons besoin plus tard. Donc faisons-lui confiance. J'aimerais terminer par trois résultats de la paix en Christ. Tout d'abord, la paix de Christ nous aide à connaître la volonté de Dieu. C'est Colossiens, on peut prendre Colossiens, chapitre 3, verset 15. Colossiens, chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alors, le mot grec qui est traduit par règne, signifie arbitrer. Voilà, que la paix de Dieu arbitre un peu ce qui se passe dans vos cœurs. Paul exhorte les Colossiens à laisser la paix de Christ arbitrer leurs conflits, leurs décisions, leurs projets, leurs relations les uns avec les autres. Cette exhortation est reprise dans bien d'autres endroits de la Bible. Dans Psaume, par exemple, 34, verset 15, qui est le parallèle de 1 Pierre, chapitre 3, verset 11, « Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. » En Romains chapitre 14, verset 19, nous dit aussi « Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Et dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11, nous pouvons lire « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Et Hébreux chapitre 12, verset 14, nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Voilà, la paix de Dieu, la paix de Christ doit arbitrer nos décisions, nos relations, nos conflits, tout ce qui se passe dans notre vie. Imaginez que vous ayez une décision à prendre. Imaginez que vous soyez en face d'une difficulté, eh bien, il faut laisser la paix de Dieu jouer l'arbitre. Imaginez que vous avez un projet et vous passez du temps dans la parole pour savoir est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication. Et vous voyez que la parole vous dit clairement qu'il n'y a pas de problème, c'est un projet qui rentre dans le cadre de Dieu. Et puis si vous pouvez envisager de réaliser ce projet tout en gardant la paix de Dieu dans vos cœurs, eh bien il y a un fort indice qui vous encourage à réaliser ce projet. Vous dites, mais finalement, il me semble que c'est la volonté de Dieu. La paix de Dieu est conservée. La parole de Dieu ne contredit pas mon projet et j'ai la paix de Dieu. Mon cœur est en paix quand je pense à ce projet. Eh bien, je peux y aller. Et puis, imaginez par contre que vous avez un projet, mais vous devez sacrifier la paix de Dieu. Il y a des choses douteuses, votre cœur n'est pas en paix. Là aussi, il y a un fort indice que ce n'est pas la volonté de Dieu et qu'il faudrait peut-être renoncer à ce projet. Un projet qui prive votre âme du repos et de la paix de Dieu, il vaut mieux y renoncer. Des fois, ce sont des alliances, des fois, ce sont des choses, mais on n'a pas la paix. Il faut renoncer à cela. Il faut que la paix de Christ arbitre toutes nos décisions. tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché, nous dit Romains chapitre 14, verset 23. Donc c'est le premier résultat de la paix. La paix de Christ nous aide à connaître la volonté de Dieu. Le deuxième résultat de la paix de Christ, c'est qu'elle est une caractéristique fondamentale de l'unité chrétienne. On reprend Colossiens, chapitre 3, verset 15, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Vous voyez, la paix à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. La paix n'est pas seulement objective et subjective, elle est aussi relationnelle. Voilà, la paix de Dieu, ce n'est pas seulement pour moi tout seul dans mes problèmes, c'est aussi pour mes relations avec mes frères et sœurs. Et ceux qui ont la paix avec Christ et dans le cœur vivent dans l'unité et l'harmonie avec les autres. Si votre cœur est en paix, eh bien vous pouvez vivre tranquillement avec les autres. Et Dieu nous a laissé sa paix. N'oubliez pas, ce n'est pas nous qui la fabriquons, il nous a laissé. Et si nous refusons à la paix de Christ d'arbitrer nos relations les uns avec les autres, nous ne pouvons pas cultiver l'unité du corps de Christ. Si nous sommes quelqu'un à conflit, quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot, qui veut être plus grand que tous les autres, nous ne pouvons pas avoir de relations saines et paisibles. Chacun va faire ce qu'il veut, chacun va faire comme il veut. Mais le Seigneur nous dit, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. L'apôtre Paul ajoute, et soyez reconnaissants. Et c'est important ça. Si la paix de Dieu est en nous, nous serons reconnaissants, n'est-ce pas? Il n'y a pas de trouble. La paix et la reconnaissance sont étroitement liées et s'entretiennent l'un l'autre. La reconnaissance entretient, maintient la paix du cœur. La reconnaissance, en fait, c'est la réponse du croyant face à tout ce que Dieu a fait. Éphésiens chapitre 5, verset 20 nous dit « Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et nous avons lu Philippiens chapitre 4, verset 6 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » 1 Pierre 5, 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La reconnaissance. Et c'est pourquoi nous avons dans ce culte un temps d'action de grâce. Parce qu'on oublie de dire merci. On prend bien, mais on oublie de dire merci. Vous savez, les enfants sont comme ça. Ils demandent, mais oublie le petit merci. Et on voit que Dieu aime la reconnaissance. C'est pourquoi nous gardons dans ce culte un temps de reconnaissance. Et quand on lit l'Épître aux Colossiens, par exemple, on voit qu'en plusieurs endroits, la reconnaissance revient. Je vous laisserai lire Colossiens, vous verrez combien « Et soyez reconnaissants » revient. Donc c'est l'attitude du chrétien, la reconnaissance. Nous n'avons rien, nous n'héritons rien, nous avons tout par grâce. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Et enfin, le troisième effet de la paix de Christ, c'est une source inépuisable de force dans les difficultés. C'est la force tranquille qui nous porte et nous rend capables d'endurer toutes les épreuves avec une totale sérénité. C'est la paix de Christ qui a soutenu Étienne et l'a poussé à demander le pardon pour ses bourreaux. Étienne chapitre 7 d'Actes, Actes chapitre 7 verset 60, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Vous connaissez l'histoire d'Étienne. C'est l'apôtre Paul aussi qui a connu toutes sortes d'afflictions. Quand on lit les épîtres, on voit que Paul est passé par beaucoup de choses difficiles. Pourtant, il a conservé une paix incroyable. Il a même souffert la méchanceté de certains chrétiens, mais Paul a gardé une paix vraiment incroyable. Philippiens, Corinthiens, on lit ça. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a lui-même montré l'efficacité de sa paix quand il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Remarquez, frères et sœurs, que l'apôtre Paul ne se polarisait pas sur ses difficultés. Il n'était pas là en train tout le temps de dire « et ceci et cela, et ceci et cela », ne dire que cela. Il ne fixait pas toute son attention sur tous les problèmes qu'il passait. Il y a eu des choses difficiles, même des chrétiens qui se sont rebellés contre lui, des amis qui l'ont abandonné, d'autres qui faisaient obstruction à son ministère. Mais il ne s'est pas focalisé sur ça. Mais il comptait sur la promesse de Dieu de le soutenir et de le glorifier en fin de compte. « Je vous laisse la paix. » Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Les épreuves viennent et vont, mais la gloire de Dieu est éternelle. Et Paul avait compris ça. Il regardait toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. C'est pourquoi, au milieu de ces tribulations, il pouvait écrire « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Frères et sœurs, nous possédons la paix de Christ, cette paix hors du commun, cette paix qui surpasse toute intelligence. Comptons sur elle, c'est notre devoir. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15 que nous avons lu, Paul ne nous dit pas de chercher la paix. Il nous exhorte plutôt à laisser la paix de Dieu régner dans notre cœur. Il nous encourage à laisser la paix de Christ agir en nous. La paix de Christ est à nous, nous n'avons pas à la chercher. Dieu nous l'a donnée. Et il faut la laisser régner dans nos cœurs. Nous goûterons alors pleinement cette paix parfaite quand nous détacherons notre attention des difficultés pour la porter sur Christ. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ésaïe chapitre 62, verset 3. Alors comment se confier en Christ dans notre société ? Comment se confier en Christ dans notre société ? Comment se confier en Christ quand on entend tout ce qu'on entend ? Comment se confier en Christ quand nous sommes saturés et bombardés de toutes sortes de publicités qui réveillent en nous toutes sortes de désirs, toutes sortes de besoins, toutes sortes de problèmes ? Comment garder notre esprit sur Christ tandis que la société fait tout pour nous focaliser sur nos besoins ou nos difficultés ? Nous pouvons nous confier en Christ en étudiant la parole de Dieu, en nous laissant conduire par le Saint-Esprit, en nous laissant enseigner par le Saint-Esprit. Il attachera nos cœurs sur la personne de Jésus-Christ, c'est son ministère. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean chapitre 16, verset 14. Alors frères et sœurs, que la paix de Christ règne dans nos cœurs, que notre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs ce matin.